Quand l'oubli devient pathologique. Trouble de la mémoire, quand s'inquiéter. Quand on perd la mémoire totalement ou partiellement après un choc ou une maladie, on parle de syndrome amnésique. Il peut être transitoire ou permanent. Le plus souvent, il ne concerne pas toutes les mémoires, certaines restant fonctionnelles, notamment la mémoire procédurale, celle des gestes comme faire du vélo ou lacer ses chaussures. Nous avons déjà abordé dans le chapitre sur les émotions le trouble de stress post-traumatique qui survient après un choc émotionnel. Il se caractérise par des images flash qui hantent le quotidien et par l'oubli des éléments contextuels. Moins grave et totalement réversible, l'ictus amnésique est un trou noir de moins de 24 heures qui touche la mémoire épisodique. On n'imprime plus nos faits et gestes pendant quelques heures. On n'en connaît pas toujours la cause, mais il est le plus souvent provoqué par une émotion forte, un effort physique violent ou un choc thermique, comme se plonger dans une eau glacée. Les chocs physiques peuvent aussi affecter notre mémoire épisodique. En cas de traumatisme crânien, il est fréquent de ne pas se souvenir d'un accident de la route, d'une chute ou d'un impact lors d'une activité sportive. Le plus souvent, l'onde de choc a perturbé la transmission nerveuse. L'événement n'a pas été encodé ou stocké, donc on ne pourra jamais s'en souvenir. Dans certains cas, le traumatisme crânien entraîne des difficultés plus importantes. On a du mal à retenir les événements nouveaux. Amnésie antérograde ou à se souvenir du passé. Amnésie rétrograde. Difficile de prédire si ces troubles seront réversibles, cela dépend de la nature et de l'ampleur des lésions des zones cérébrales touchées. Nous l'avons vu dans la première partie de l'ouvrage, nos mémoires se cachent à différents endroits du cerveau. Hippocampe, amygdale, cortex, cervelet et noyaux gris centraux. Une lésion à l'hippocampe entraînera des difficultés à créer de nouveaux souvenirs. À l'inverse, une lésion dans le cortex, là où sont stockés la plupart de nos souvenirs, aura pour conséquence l'oubli de souvenirs anciens. Nous avons aussi vu que notre cortex était divisé en une multitude d'aires très spécialisées, donc une lésion dans l'aire dédiée à la reconnaissance des visages provoquera un oubli des visages, tandis qu'une dans les aires dédiées au langage sera à l'origine de troubles du langage, etc. En fait, quelle que soit l'origine de la lésion, un choc physique, un accident vasculaire cérébral, une tumeur, une infection bactérienne ou virale, une maladie génétique ou neurodégénérative, l'atteinte d'une même zone de la mémoire entraînera les mêmes symptômes. C'est pourquoi il est primordial, en cas de trouble de la mémoire, de consulter son généraliste. Il vous orientera éventuellement vers une consultation mémoire où une série de tests neuropsychologiques vous sera proposée. On vous prescrira peut-être une IRM. Un PET scan, un examen d'imagerie médicale qui permet de visualiser le fonctionnement, le métabolisme et l'anatomie des organes, ou une prise de sang, voire une ponction lombaire pour affiner le diagnostic. En effet, il n'y a pas qu'Alzheimer comme maladie affectant la mémoire. La maladie à Cordelevy, par exemple, est une maladie neurodégénérative assez répandue, bien que méconnue du grand public. Ses symptômes sont très variés, ce qui la rend difficile à diagnostiquer. Troubles cognitifs, de l'attention, de la concentration, de la perception visuelle et spatiale, puis de la mémoire. Fluctuation des symptômes dans des délais très courts. Dans une même journée, le malade peut être confus ou somnolent, puis retrouver tous ses moyens et son énergie. Hallucinations visuelles et parfois auditives. Troubles du sommeil et troubles moteurs, comme dans la maladie de Parkinson. D'ailleurs, Parkinson provoque aussi des troubles de la mémoire. Il y a enfin toutes les dégénérescences lobaires frontotemporales, ou DLFT, un groupe de maladies neurodégénératives qui atteignent, comme leur nom l'indique, les lobes frontaux et temporaux. Parmi les maladies qui affectent la mémoire, Alzheimer est de loin la plus connue et la plus redoutée. Qui ne s'est jamais dit, en ne retrouvant pas ses clés, c'est le début d'Alzheimer. Quelques chiffres pour commencer. Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus fréquente chez les personnes âgées. Aujourd'hui, il y a environ 1 million de Français diagnostiqués Alzheimer et 250 000 cas supplémentaires par an. La maladie pouvant mettre jusqu'à 20 ans à devenir symptomatique, le nombre de personnes atteintes est en réalité bien plus élevé. Si les cas d'Alzheimer précoce existent, ils sont rares et proviennent généralement d'un Alzheimer familial. Cette forme touche environ 1% des malades. Elle se transmet alors génétiquement de parents à enfants. Jusqu'à 60 ans, vos troubles de la mémoire sont plus probablement le fruit d'une période d'insomnie, de stress, de surmenage ou d'une dépression. Mais encore une fois, en cas de doute, mieux vaut consulter votre généraliste. En effet, une dépression peut aussi camoufler les premiers signes de la maladie. Selon les chiffres de France Alzheimer, le premier facteur de risque pour Alzheimer est l'âge. À 65 ans, environ 3% de la population est touchée, mais après 80 ans, cela grimpe à 20%. Les autres facteurs de risque ont des origines diverses, génétiques et environnementales. Attention, avoir un facteur de risque ne veut pas dire qu'on va développer la maladie, tout comme avoir une voiture ne veut pas dire qu'on va avoir un accident. Mode de vie, réserve cognitive, problèmes de santé chronique, les raisons de déclencher ou non la maladie sont nombreuses et complexes. Dans 80% des cas, les premiers symptômes sont des troubles de la mémoire épisodiques. L'hippocampe étant atteint, cela affecte le stockage de nouvelles informations et la récupération des plus anciennes. On oublie ce qu'on a fait le matin, un rendez-vous important l'après-midi, et puis, progressivement, on oublie aussi les souvenirs plus anciens. En parallèle, on observe une désorientation temporelle et spatiale, autre spécialité de l'hippocampe. On perd la notion du temps et on se perd de plus en plus. Troubles du sommeil, du langage, du comportement, anxiété anormale, dépression, chute fréquente. La liste des symptômes s'allonge jusqu'à la perte des gestes de la vie courante. La dépendance s'accroît au fur et à mesure. Pour savoir quand s'inquiéter, une partie de la réponse se trouve dans la question. Si vous vous la posez, il y a des chances pour que ce ne soit pas Alzheimer. En effet, en règle générale, les premiers à se rendre compte que quelque chose cloche ne sont pas les malades, mais l'entourage. Ce sont eux qui donnent le plus souvent l'alerte, alors écoutez-les. Comment Alzheimer affecte la mémoire ? En cas d'Alzheimer, on voit à l'IRM une atrophie de l'hippocampe et du cortex temporal et pariétal. Mais ce n'est pas spécifique. En revanche, la présence en excès de deux protéines, la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau, signe la maladie. Ces protéines sont présentes en temps normal, mais dans le cas d'Alzheimer, elles s'accumulent de manière incontrôlée. Dans un premier temps, le cerveau se défend et les élimine, puis il est dépassé. Les protéines bêta-amyloïdes s'agglomèrent et forment des plaques qui s'accumulent entre les neurones. Les protéines tau sont des éléments essentiels à l'architecture et à la stabilité des neurones, mais ici, elles s'agrègent et forment des amas qui déstructurent les axones. Les deux protéines deviennent alors toxiques pour les neurones et les synapses. Ils fonctionnent moins bien puis finissent par mourir. C'est la neurodégénérescence. Des lésions et des atrophies apparaissent en différents endroits du cerveau, accompagnées d'une réaction inflammatoire. Le plus souvent, la maladie débute dans l'hippocampe, mémoire épisodique, et le cortex périrhinal, puis gagne les cortex pariétal et temporal, mémoire sémantique, langage et connaissance générale, puis occipital, reconnaissance visuelle. Les mémoires procédurales et perceptives sont les dernières à être atteintes, mais la maladie finira par gagner tout le cerveau. Quel traitement pour freiner la maladie ? À ce jour, il n'y a pas de traitement pour soigner Alzheimer. La maladie est malheureusement incurable. On ne peut agir que sur les symptômes et retarder leur apparition ou freiner leur aggravation. Du côté des médicaments spécifiques à cette maladie, il en existe quatre. Donepezil, Aricept, Rivastigmine, Exelon, Galantamine, Réminil, et Mémantine, Ebixa. Mais ils ont été déremboursés par la Sécurité sociale car ils ne seraient efficaces que chez 20% des malades et provoquent beaucoup d'effets secondaires. Pour pallier les troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression ou du comportement, on prescrit des médicaments plus répandus, somnifères, anxiolytiques, antidépresseurs ou neuroleptiques. Les soins non médicamenteux sont aussi utiles pour retarder la progression de la maladie. Il faut avant tout éviter les surrisques comme les infections, les chutes, les hospitalisations et les anesthésies générales qui peuvent brusquement aggraver les symptômes. Ensuite, l'orthophonie permet de conserver le langage le plus longtemps possible. La kinésithérapie, l'ostéopathie, l'ergothérapie et la psychomotricité préservent l'activité motrice et l'autonomie. Au quotidien, l'activité physique, le lien social et la stimulation sensorielle sont les meilleurs moyens pour stimuler les différents types de mémoire et freiner le déclin cognitif. Nous l'avons vu, les odeurs ou une chanson connue sont efficaces pour faire ressurgir un souvenir. En effet, à ses débuts, le problème d'Alzheimer n'est pas tant l'effacement des souvenirs que la difficulté à les récupérer. Les traces mnésiques sont encore là, mais l'hippocampe n'y a plus accès. Solliciter les bulbes olfactifs ou l'amygdale via les émotions est donc un moyen détourné de faire ressurgir la toile du souvenir. Musicothérapie, olfactothérapie, jardin thérapeutique, le choix est large, mais mieux vaut se focaliser sur ce qui plaît ou rappelle le passé au malade. Et sachez que quoi que vous fassiez, prendre soin d'une personne atteinte d'Alzheimer, c'est déjà lui apporter du bien-être et du réconfort. Cela peut suffire à calmer ses angoisses. Si vous aidez un proche, il est important d'être vous-même informé et soutenu par des professionnels. Où en est la recherche ? Alzheimer est une maladie très étudiée, mais malgré des avancées récentes, il plane encore une importante zone d'ombre sur ses mécanismes moléculaires et cellulaires. Les origines de la maladie sont multifactorielles. Il y a donc une immense variété de pistes explorées. Aux quatre coins du monde, des chercheurs sont lancés dans une course contre la montre. Avec le vieillissement de la population, le nombre de cas pourrait exploser pour trouver un traitement préventif ou curatif. Plusieurs d'entre eux seront peut-être nécessaires pour enfin prévenir ou guérir la maladie. Sans être exhaustif, voici quelques pistes. D'un côté, des chercheurs se concentrent sur ce qui semble causer la maladie, les protéines bêta-amyloïdes et tau. Comment empêcher leur prolifération et donc l'apparition des lésions cérébrales ? Des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire fabriqués spécifiquement pour traiter une maladie, sont à l'étude. En juin 2021, la Food and Drug Administration, l'agence américaine du médicament, a d'ailleurs autorisé la mise sur le marché d'une nouvelle molécule visant la protéine bêta-amyloïde, une première en 20 ans. Destinés aux personnes atteintes à un stade précoce, ces anticorps réduisent le nombre de plaques amyloïdes, mais leur effet clinique sur la réduction des symptômes et le ralentissement du déclin cognitif reste à prouver. D'un autre côté, des chercheurs ciblent plutôt les conséquences de l'excès de protéines sur les neurones. Inflammation, dégénérescence, stress cellulaire, perte de transmission, dérèglement des fonctions métaboliques et vasculaires. Ces troubles étant communs à d'autres maladies comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires, pourquoi ne pas tenter les médicaments efficaces contre ces pathologies ? C'est le cas dans de nombreux essais cliniques. En février 2020, aux États-Unis, sur 136 essais cliniques anti-Alzheimer, 39% impliquaient des molécules déjà validées par la Food and Drug Administration. Et si les plaques amyloïdes n'étaient pas la cause, mais la conséquence de la maladie ? Des chercheurs français étudient la possibilité d'une origine virale. Dans le viseur, le virus de l'herpès, présent chez 90% des Français de plus de 50 ans, qui se fixe sur le système nerveux. L'hypothèse testée, une fois le système immunitaire affaibli par l'âge, le virus, sommeillant dans le corps depuis parfois des décennies, gagnerait le cerveau. En réaction, et pour lutter contre l'infection, le cerveau produirait alors les plaques amyloïdes qui finissent par se retourner contre lui. Cela concernerait surtout les porteurs d'un gène prédisposant à la maladie d'Alzheimer qui ont alors 3 à 4 fois plus de risques de développer la maladie. D'autres études d'impact des facteurs génétiques et environnementaux sont à l'œuvre. De leur côté, des chercheurs de l'Université d'Augusta aux États-Unis se penchent sur les effets du CBD, le cannabidiol. La substance non psychoactive du cannabis est déjà connue pour ses propriétés anxiolytiques et antidouleurs. Elle réduirait également l'inflammation des neurones dans le cas des maladies neuroévolutives. Pour le moment, testée à dose massive chez la souris, elle diminue effectivement les symptômes d'Alzheimer. Serait-ce efficace chez l'homme? Et surtout, à quel dosage? On ne le sait pas encore. Une autre piste inflammatoire concerne cette fois notre microbiote. Depuis qu'ont été démontrés les liens entre notre cerveau et nos bactéries intestinales, devenues de véritables stars médiatiques, ces dernières font l'objet de nombreuses attentions dans des domaines très variés de la santé. Une équipe suisse et italienne vient de prouver la corrélation entre microbiote intestinal et apparition de plaques amyloïdes dans le cerveau. Prudence néanmoins, car corrélation ne veut pas dire causalité. Dans ce cas précis, nous ne savons pas encore si c'est la maladie qui altère le microbiote ou l'inverse, mais cela ouvre de nouvelles perspectives. La piste du sommeil est aussi explorée. En effet, les personnes âgées qui ont du mal à s'endormir ou qui font de l'apnée du sommeil ont plus de plaques amyloïdes. En traitant les problèmes d'insomnie en amont, on pourrait agir sur l'apparition ou l'évolution de la maladie. Il faudra encore probablement des années avant de trouver un ou des remèdes efficaces contre Alzheimer. Aujourd'hui, le meilleur moyen d'y échapper est la prévention. D'une part, en limitant les facteurs de risque, il faut donc soigner ses insomnies, son stress, ses maladies chroniques, hypertension, diabète, cholestérol, et éviter les toxiques, polluants, pesticides, alcool, tabac, drogue. D'autre part, en entretenant sa réserve cognitive tout au long de sa vie, comme nous l'avons vu précédemment. Le top 3 des bonnes actions, des activités sportives, sociales et intellectuelles variées. L'avantage, c'est qu'au passage, vous entretiendrez votre mémoire. Si vous voulez vieillir en bonne santé et avec une bonne mémoire, prenez-en soin le plus tôt possible. Et si vous avez pris un peu de retard dans vos bonnes résolutions, rappelez-vous, la plasticité cérébrale vous permet d'agir à tout âge, mode d'emploi pour entretenir sa mémoire dans les chapitres à venir.